pouvez manquer.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Ami Hardy et spécialement ami du lundi de Pâques. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, en partenariat, vous le savez, avec les amis de L'Incorrect, de Valeurs Actuelles et de Boulevard Voltaire. Aujourd'hui, nous préenregistrons le Vendredi Saint, mais puisque vous nous écoutez le lundi, eh ben je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques. Et nous commençons justement par le sujet de la par le rendez-vous pardon, de la réinformation, avec un sujet sur les Pâques des chrétiens d'Orient. Comment au Liban, notamment, fêtent-ils Pâques en ce temps de guerre? Comment vivent-ils en Syrie et ailleurs? Nous ferons également un point sur la politique de Donald Trump en Iran, sur ses errances, sur son agressivité envers l'Europe, sur sa frustration de ne pas parvenir à plier les affaires internationales comme on le ferait dans une série télé, ou dans ses rêves de sociopathe sénile, ou en voie de l'être, et de sociopathe peroxydé, j'ajouterai. Je lui en veux d'autant plus à Donald Trump, personnellement, qu'il m'a forcé à donner raison à Emmanuel Macron, alors que j'aurais aimé tout de même réussir à donner constamment tort au chef de l'État durant deux quinquennats. Bah, à cause de lui, je ne réussirais pas cet exploit. Humour ensuite, nous dirons quelques mots des élus et des filles, entre Raphaël Arnaud, qui fait son grand retour à l'Assemblée nationale, soi-disant en toute discrétion, mais néanmoins devant toutes les caméras. Et puis alors, évidemment, ben Rima Hassan, vous l'avez peut-être suivi, qui part en garde à vue pour apologie du terrorisme et qui termine comme une pauvre dealeuse ou toxicomane de cité avec de la drogue dans son sac à main. Et puis nous terminerons avec la commission sur l'audiovisuel public qui va s'achever le 9 avril après les ultimes auditions. Et à la fin du mois, donc son rapporteur, le député UDR Charles Aloncle, va rendre ses conclusions dans un rapport qui est amené à faire grand bruit, mais grand bruit seulement si il n'est pas interdit par ses confrères, puisqu'il y a une petite astuce, c'est que les autres membres de la commission doivent voter pour approuver la publication de ce rapport, et il se peut qu'ils disent non. Et ce serait quand même assez grave. Et dans un entretien exclusif qu'il a accordé au magazine L'Incorrect, Charles Aloncle dresse, avant que la commission se prononce, et pour éventuellement déjouer l'obligation de silence qu'il aurait, il dresse un réquisitoire tout à fait implacable contre les dérives de l'audiovisuel public, donc gabegie financière, conflit d'intérêts à tous les étages, défaut de pluralisme, soupçons d'emploi fictif, et puis évidemment une culture de l'opacité et de l'impunité qui n'est plus à démontrer. Et il raconte aussi les pressions lourdes qu'il a subies tout au long de cette commission pour faire échouer ses travaux. Alors, nous vous présenterons en exclusivité les révélations qu'il a faites dans cet entretien, et nous reviendrons sur l'importance de cette commission, qui peut avoir vraiment un impact déterminant sur les médias du service public, surtout évidemment à l'approche de l'élection présidentielle, où les médias joueront un grand rôle, et spécialement les médias publics. Alors, soit ce rapport pourra permettre de clarifier et peut-être même d'assainir les médias du service public, soit il sera purement et simplement étouffé, et tout continuera comme avant. Et puis ensuite, sans transition aucune, nous changerons mais totalement de registre, avec un invité qui est parfaitement et délibérément étranger à la politique, alors ça veut dire qu'il est forcément un petit peu de droite, diront les mauvaises langues, qui est le comédien et metteur en scène Michel Faux. Alors vous l'avez peut-être vu en professeur de chant, vénal et excentrique dans Marguerite de Xavier Janoli, oui, un rôle absolument extraordinaire. Vous l'avez peut-être vu dans un rôle un peu plus sombre, en producteur de pornographie débonnaire et baroque dans un film, je crois que ça s'appelait Que la fête commence, mais il faudrait que je vérifie, et puis plus récemment en président de la République dans L'inconnu de la Grande Arche. Alors les amateurs de théâtre ont pu aussi le voir triompher dans Que l'enfant paraisse, ou La jalousie de Sacha Guitry, tout récemment au théâtre de la Michaudière. Et voilà, ce soir, j'espère que vous aurez l'occasion d'apprécier cette rencontre avec un artiste baroque qui repousse vraiment les limites du grotesque, du surréalisme, mais toujours avec beaucoup de finesse, avec une culture prodigieuse qui en fait un grand comédien classique, un grand metteur en scène classique aussi. Et par-dessus le marché, voilà, c'est un homme fort sympathique, donc nous sommes ravis qu'il vienne parler à Radio Courtoisie. Alors, pour parler de tous ces sujets, ben, j'ai le plaisir d'accueillir les catéchumènes de la réinformation avec Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétien d'Orient. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Pierre-Alexandre, et je profite pour souhaiter joyeuse Pâques aux auditeurs et bonne semaine sainte à ceux qui suivent l'ancienne forme et qui ne sont pas... Vous auriez dû
c'est vrai.
Ne pas l'oublier, vous connaissez ça.
Tout comme je pense aux orthodoxes qui le fêteront.
Mais pensez aux catholiques aussi qui suivent l'ancienne forme, hein, parce qu'il y en a. Alors, par exemple, moi je vais chanter toute la semaine selon l'ancienne forme dans une église catholique.
Vous chantez où, à Saint-Eugène?
Non mais à Saint-Eugène, c'est une église latine, fêté Pâques, mais à l'église russe catholique qui est juste à côté d'ici, nous sommes à l'ancienne forme et donc nous suivons le
et
calendrier julien.
Pardon ? Tout le monde peut venir ?
Bien sûr.
Il faudra qu'on donne l'adresse. Alors pour aller écouter Benjamin Blanchard chanter...
Surtout en Villiers. C'est donc rue François Gérard dans le 16e arrondissement, juste à côté de l'église d'Auteuil. C'est une très jolie petite église.
Et à quelle heure est-ce que vous chantez ?
C'est sur le site de la paroisse, mais c'est à 19h tous les soirs, et puis à midi pour l'office de la mi-journée, et puis voilà.
D'accord, on mettra les informations pour ceux qui voudraient assister à ces représentations, si je puis dire, à ces messes. Autre catéchumène de la réinformation, c'est le pape, l'évêque, Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia. Nous attendons dans un instant Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect. Et aux commandes, nous avons donc Claudia qui va nous accompagner pendant 2 heures. Chers auditeurs, vous ne pouvez pas intervenir en direct parce que, comme je vous l'ai dit, l'émission est préenregistrée, mais n'hésitez pas à nous écrire, à envoyer vos messages, vos questions, et puis nous les transmettrons aux personnes concernées. Donc, vous connaissez les adresses, le courriel courtoisie@rc.fr et le téléphone 01 46 51 00 85. Eh bien, si vous voulez bien, donc nous commençons tout de suite avec les chrétiens d'Orient qui fêtent Pâques en temps de guerre, du moins au Liban. Mais bon, il n'y a pas que le Liban.
Pas si bien ailleurs non plus.
Oui. Donc justement, est-ce que on pourrait faire avec vous, Benjamin Blanchard, un petit tour d'horizon ? Par exemple, si on commençait par la Syrie, où la situation est tout de même, j'imagine, un peu tendue depuis... l'arrivée d'un pouvoir démocratique et donc...
Et voilà, et puis surtout ce qui s'est passé la semaine dernière, je ne sais pas si les auditeurs ont suivi, mais il y a eu la ville chrétienne de Skalbiyé au nord-ouest de Hama, donc c'est dans le nord-ouest de la Syrie, qui a été attaquée par les djihadistes, les islamistes. Alors tout ça parce que, en fait, il y avait une jeune fille qui était en train d'être embêtée par un jeune homme, sûrement plein de bonnes intentions.
De confessions différentes, donc.
Oui, visiblement. Ouais. Et donc, là-bas, les jeunes gens ne se sont pas contentés de prendre des vidéos et d'applaudir, ou de prendre des vidéos passivement. Ils sont intervenus de manière musclée, et ils ont rossé tout simplement l'agresseur, en lui faisant comprendre que ce n'était pas des manières. Et donc, l'agresseur est parti. Mais il allait prévenir ses petits camarades et ils sont revenus à des dizaines de personnes, des centaines peut-être, armés, et ils ont pillé littéralement et saccagé le centre-ville, les commerces, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que les forces de sécurité du régime en place ne sont pas intervenues, évidemment. Donc, les habitants sont descendus dans la rue sans les manifester le soir même devant le siège des forces de sécurité. Le lendemain, ils ont fait une grande manifestation avec des slogans très clairs, réclamant d'une part, rappelant qu'ils étaient des Syriens comme les autres, donc ils avaient le droit de vivre dans leur pays, et deuxièmement, réclamant une armée et des forces de sécurité représentatives de toute la Syrie, de la société syrienne.
Ce qui n'est plus le cas du tout, alors.
Ah, ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'actuellement, c'est monocolore, c'est uniquement les anciens de Jabhat al-Nusra, qui sont dans les forces de sécurité. Donc, ils réclament que les forces de sécurité, sous-entendu, comprennent aussi par exemple, les membres de l'ancienne milice qui défendait la ville.
Oui.
Alors ça va être compliqué parce que cette alors, ville s'est battue pendant 5 ans contre le Jabhat al-Nusra.
C'est
justement.
Ce que j'allais
donc,
dire.
C'était oui. pas innocent non plus.
Il y avait deux villes qui se battaient, donc qui ont été assiégées pendant très longtemps, Skelbie et
oui,
Mardé.
Oui, deux villes juste à côté, Mardé et Skelbie. Après, il y en a eu d'autres villes chrétiennes qui se sont très bien battues.
Mais celles-ci sont connues.
Tout à fait. Et non, parce qu'il y a Sidnaya aussi qui est très connue, mais eux, ça a duré moins longtemps, mais près de Damas, et puis Sadad, etc. Et il faut quand même noter que suite à la manifestation, il y a eu une nouvelle attaque, ils sont arrivés à moto, etc. Et là, les forces de sécurité ont barré l'entrée et les ont forcés à repartir.
D'accord.
Ils ne les ont pas arrêtés. Mais ils leur ont demandé poliment de repartir, ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Et puis, cet épisode intervient juste après un décret du gouverneur de Damas, une semaine après, qui restreint la consommation, la vente d'alcool dans Damas aux quartiers chrétiens. Donc, jusqu'à présent, tous les restaurants de Damas, ou presque, servaient de l'alcool. Et là, maintenant, c'est limité à quelques quartiers, donc à trois quartiers. Donc, la vieille ville et puis les deux quartiers chrétiens qui ne sont pas très loin de la vieille ville. Donc ça a provoqué des manifestations aussi assez importantes, d'ailleurs, où il n'y avait pas que des chrétiens, je crois.
Et le gouvernement peut imposer ça, vous pensez? Ou il y a des résistances populaires?
En tout cas, il y a des résistances populaires. Ouais. C'est le gouverneur.
Ça avance vers une sorte de d'Afghanisation ou...
Non, je ne suis pas allé en Afghanistan, mais je crois qu'on en est très loin. Et je ne crois pas que ça soit le plan, mais plus un modèle des États du Golfe, très religieux, très islamique, etc., mais qui évidemment ne convient pas à une bonne partie de la population syrienne, parce qu'il n'y a pas seulement les chrétiens, il y a les autres minorités musulmanes qui ont un mode de vie pas du tout conforme à celui voulu par ceux au pouvoir actuel, et il y a aussi toute la bourgeoisie sunnite qui était complètement sécularisée, ou la classe moyenne sunnite, combien de temps vont-ils soutenir cela? Pour l'instant, ils font mine de soutenir, de s'en contenter, ils ont adapté souvent leur mode de vie, les femmes se sont couvertes, etc. Mais combien de temps vont-ils jouer ce jeu-là? Parce que quand toute votre vie, vous avez mené une vie occidentale, avec de l'alcool, etc., vous habillez comme vous voulez, changer
ça passe,
radicalement comme ça, c'est pas évident.
Comment se passe la vie d'ailleurs pour les femmes en Syrie aujourd'hui, puisque...
Ça dépend de leur
si
confession.
Si on est musulman, si on est dans l'administration, parce que l'administration est forcément assujettie à la politique de l'État, donc...
Ça dépend de votre religion.
Ah bon?
Oui, donc évidemment, les chrétiennes, personne ne les force à se voiler, elles ne se voilent pas. Les alaouites non plus, mais les sunnites, je crois qu'elles sont fortement incitées.
Et comment on distingue une sunnite d'une chrétienne dans la rue alors?
On leur demande.
D'accord.
Non, mais vraiment, j'ai des collègues qui, au barrage, on leur a demandé pourquoi vous n'êtes pas couverte.
D'accord.
Je suis chrétienne. Bon, c'est bon, vous passez. Je suis alaouite, vous
d'accord.
passez. Mais on leur demande. Ce qui est assez surprenant.
Ouais. Oui, bah oui.
Quoi, pas forcément quand on voit l'obédience de ceux qui contrôlent. Mais...
D'accord. Et alors ça, pour le coup, ça n'est pas du tout remis en question par les partenaires occidentaux qui voient toujours en Al-Julani un partenaire tout à fait humaniste et modéré.
En fait, il faut être déjà réaliste et il serait fou de remettre en cause, puisque pendant 10 ans, on a soutenu le Jabhat al-Nusra pour prendre le pouvoir et leur programme était bien plus radical que ce que tente de mettre en œuvre M. al-Sharaa maintenant, qui objectivement a mis beaucoup d'eau dans son vin. Mais le problème, c'est pas tant lui, c'est plus
c'est les autres,
60 000 combattants à qui on a promis un califat islamique et à qui on est en train de dire en fait, ça sera pas tout à fait ça. Le plan a un petit peu changé et on a bien vu ce qui s'est passé cet hiver, je crois que c'était en décembre à Palmyre, où un membre des forces de sécurité syriennes a abattu deux soldats américains et leur interprète. Et en fait, il était de Daesh. Et donc, il a été immédiatement condamné, et je pense exécuté par le gouvernement, en tout cas mis en prison. Mais c'est vrai que c'est difficile de distinguer un membre de Daesh
d'un membre d'Al-Nusra.
voilà, parce qu'ils ont un peu la même barbe. Et donc, non, mais avant, c'était facile. Il y avait un look très différent. Pardon pour le cochon. Mais il y avait une apparence très différente, ce qui n'est plus du tout le cas. Ce qui n'était plus du tout le cas aujourd'hui. Puis les gens, on leur a vendu quelque chose. Maintenant, il va falloir leur faire avaler que c'est pas tout à fait ça. Parce que c'est bien gentil de restreindre quelques quartiers, mais c'est pas tout à fait ça qui était prévu.
C'est trop symbolique.
C'était beaucoup plus dur. Hein,
alors d'ailleurs, il paraît que l'État islamique, l'organisation, remonte et regagne du terrain en Syrie. Est-ce que c'est lié à cette apparence de modestie, modération de du nouveau gouvernement ?
Il y a plusieurs choses. Il y a d'une part le gouvernement a réussi à reprendre le contrôle de toute la Syrie, sauf au sud-ouest où il y a toujours des zones occupées par Israël et même annexées pour certaines avec dans la province de Kounetra, donc avec le plateau du Golan qui a été annexé sans que ce soit reconnu par la plupart des pays. Je pense que les États-Unis l'ont reconnu, mais ça doit bien être les seuls. Mais depuis,
à notre grand étonnement,
Israël a avancé encore un peu plus sur le territoire syrien. Mais à part ça, maintenant, le gouvernement syrien contrôle tout le territoire, ce qui est une première depuis 2011. Et beaucoup de gens qui n'étaient pas très craignaient, en tout cas qui étaient critiques de l'arrivée au pouvoir du nouveau régime, craignaient que la Syrie n'explose. Pour l'instant, honnêtement, on ne peut pas dire qu'elle ait explosé. C'est plutôt l'inverse qui se passe avec une réunification. Le problème, c'est que sur les zones qu'elle contrôle, donc sur toutes les zones, le contrôle a diminué. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle de tout le territoire, mais un contrôle qui est moins serré qu'auparavant. Et ce qui fait qu'il semblerait que, oui, des cellules de l'organisation État islamique qui se recréent et qui sont actives. Et ce qui fait que, notamment, le désert syrien n'est toujours pas sûr. C'était déjà pas très sûr avant, mais ça l'est encore moins. Et donc, on peut imaginer que Daesh puisse se réveiller. En tout cas, ils ont déclaré qu'il fallait abattre et faire tomber ce régime impie, bien sûr, qui était des traîtres, etc.
Et alors, comment ça se passe donc pour les chrétiens ? Parce que, par exemple, un village comme Maloula, qui est assez symbolique du christianisme oriental, où on parle l'araméen, donc, comment vivent les chrétiens là-bas ? Après avoir été persécutés au tout début, enfin, par les islamistes, ensuite sécurisés par le gouvernement.
En fait, il y a eu quelque chose, c'est que quand il y avait l'ancien régime, les chrétiens de Maloula n'ont jamais accepté que les habitants musulmans reviennent dans le village. Et je me souviens, c'était un énorme débat avec leur curé de l'époque, le père Toufi Kéhid, qui leur disait « Non, mais vous avez tort. Bien sûr, déjà, en tant que chrétien, vous devriez, au bout d'un moment, tourner la page, mais surtout, d'un point de vue politique, vous devriez autoriser à ce qu'ils reviennent quand nous sommes forts, plutôt que d'être forcé à le faire plus tard, parce que ça se fera dans de moins bonnes conditions. » Il s'avérait qu'il avait tout à fait raison, parce que c'est quand même un des seuls villages où ça s'est passé. En tout cas, ça ne s'est pas passé partout comme ça, mais dans ce village, ça s'est passé comme ça. Ils ont refusé que quiconque revienne avec des positions extrêmement dures pendant toute la guerre. Et puis, une fois que le régime a changé, bah forcément, les habitants musulmans sont revenus. Et en fait, ils ont récupéré de manière un peu vive ce que les chrétiens s'étaient servi. Il y avait aussi des histoires de terres et de fermes, etc. Et donc, ça ne s'est pas très bien passé. Mais maintenant, la vie a repris son cours. Par contre, ce qui est tout à fait notable, c'est qu'à la différence de l'an dernier, à la différence de Noël, où toutes les cérémonies publiques s'étaient tenues normalement, donc comme avant, avec des grandes processions, des choses sur l'espace public, dans la rue, etc., cette année, toutes les églises, d'un commun accord, ont annulé toutes les processions et les manifestations publiques dans les rues des villes et villages syriens. Donc ça, c'est un gros changement par mesure de sécurité, parce que suite à ce qui s'est passé à Skalbiyeh, ils sont inquiets. Alors que jusqu'à Noël dernier, il y avait encore eu les processions, etc. Et je crois que c'était à ce micro, il n'y a pas si longtemps, je disais... voilà tous les problèmes qu'il y avait en Syrie, mais aussi des choses qui n'avaient pas eu lieu, comme la liberté de culte qui pour l'instant n'avait pas eu d'atteinte. Voilà, c'est pas une atteinte légale,
c'est pas gouvernemental, mais c'est populaire.
C'est la peur qui fait qu'on va plus faire les processions avec la fanfare dans les rues, les tambours, etc., qui était toujours très impressionnant.
D'accord, donc on peut imaginer que le grand sapin de Noël ou les crèches dans la rue pour le Noël, ce sera un peu...
Ça, on verra à Noël. Ouais. En tout cas, ce Noël-ci, ça a eu lieu tout à fait normalement. Il y en a eu quelques-uns qui ont été détruits, mais pour le coup, le gouvernement a repayé à chaque fois les sapins de Noël. On n'est pas en France, il n'y a pas la Ligue de la Libre-Pensée, mais il y a d'autres choses.
Alors, quelle est l'action de... Comment vous, parce que vous êtes actif en Syrie depuis quoi, 12 ans, 13 ans, je
sais. Eh ben, ça fait 13 ans.
13 ans, oui. Quel est le changement par rapport au nouveau gouvernement, pour vous, pour votre action ?
Pour nous, aucun changement, si ce n'est que parfois les choses sont plus rapides qu'avant. La bureaucratie avance un peu plus et on a des autorisations plus facilement que nous avions... auparavant. Et donc, on a des projets qui étaient bloqués depuis 2-3 ans qui ont pu aboutir sous ce gouvernement.
Alors, comment vous l'expliquez ?
Bah, c'est que plus rien ne fonctionnait avant la fin. Les dernières années, les 3 dernières années, c'était la glaciation complète. Il n'y avait plus rien qui ne se passait. C'était l'immobilisme total. Hein. Donc, ceci explique peut-être cela. Non, il ne se passait plus rien, en fait. Et même une autorisation pour un projet, c'était devenu impossible à avoir. Et ce n'était pas comme ça quelques années auparavant. Donc non, là, de ce point de vue-là, la circulation de l'information avec les autorités est plutôt bonne. Par contre, il y a des choses très étonnantes. Hein. Figurez-vous que les élections qui ont eu lieu en septembre, les élections législatives, avec un mode de scrutin très étonnant, puisque le corps électoral était composé de 7000 personnes sur un pays de 24 millions d'habitants, vous avez avoué que même sous la monarchie de Juillet en France, on n'arrivait pas à ce nombre-là. Et c'était les 7000, ce n'était pas un critère objectif comme le sens, le niveau d'impôt, etc. C'était choisi par une commission électorale de 3 membres qui étaient eux-mêmes nommés par le président. Donc, ça permettait d'élire seulement que les 2/3 du Parlement, puisque le dernier tiers était nommé directement par le président, au cas où il y a un petit doute. Mais comment, malgré cela, donc le Parlement, j'imagine, n'est pas forcément le plus rebelle qu'il soit, mais comme j'imagine qu'il y a encore un doute, le plus simple, c'est de ne pas le réunir, puisqu'il ne s'est pas réuni une seule fois depuis l'élection. Donc, c'est une démocratie extrêmement bien comprise. Monsieur El-Shara a bien compris comment il fallait fonctionner pour que les choses avancent.
C'est phénoménal. Ça vous inspire, ce modèle démocratique?
On y va tranquillement.
Oui. Bon, moi, ça, pour l'instant, on en est heureusement pas encore là.
Mais aujourd'hui, on met en garde à vue des parlementaires qui sont censés avoir une immunité pour un tweet. Alors,
oui, c'est vrai.
Tout est possible.
Mais comme on trouve de la drogue dans leur sac, bon, ça va.
Oui, mais c'est. Enfin.
Ben, on va en parler dans.
C'est un vrai sujet.
On va en parler.
C'est un vrai sujet.
Là, il y a l'Arménie également. Alors, vous travaillez dans une dizaine de pays, mais les plus en pointe, si je puis dire, ou ceux qui sont le plus exposés à des troubles ou à des malheurs pour Pâques, ça peut être l'Arménie où la population est. Alors, elle n'est pas persécutée,
Pâques,
puisqu'ils sont en Arménie,
il y
a une pauvreté, une misère.
Une pauvreté, une misère, et puis surtout, il y a une campagne électorale, là aussi, avec une démocratie extrêmement bien comprise. Évidemment, ça n'émeut personne, puisque le Premier ministre a le bon goût d'être dans le bon camp, c'est-à-dire le camp occidental américain.
Oui. Alors, ça va.
La campagne est quand même assez hallucinante. Le chef du principal parti d'opposition alterne entre la prison et la résidence surveillée. Et puis, il n'a pas eu le droit de se présenter, mais bon, son parti se présente quand même. Et le Premier ministre a absolument tous les médias à ses pieds. Et puis, il se permet quand même d'aller... Alors, il essaye de faire populaire, donc il prend le métro, etc. Mais il insulte les gens. Il y a une vidéo incroyable où il est dans le métro en face d'une dame qui est réfugiée d'Artsakh, donc la région qui a été envahie par l'Azerbaïdjan. Et il se met à l'insulter en la traitant de lâche parce qu'elle est partie, au lieu de se battre, avec son petit enfant, etc., au lieu de se battre pour rester
Donald Trump
dans son pays. Ah oui, non, mais c'est absolument hallucinant. Et donc, il fait ça en permanence, etc., en train de traiter tout le monde de lâche, de traître, etc., et d'empêcher les gens de participer normalement à l'élection. Puis là, il y avait un rendez-vous en Russie avec le président russe, et il a expliqué à la Russie que l'alliance de sécurité collective ne servait pas à grand-chose, puisque la Russie n'était pas venue à l'aide de l'Artsakh quand ça avait été attaqué par l'Azerbaïdjan, mais ce qui est quand même assez cocasse, parce que l'Arménie elle-même n'a pas bougé, n'a pas demandé, puisqu'elle a dit « Nous, on ne se préoccupe pas, on ne garantit pas la sécurité de l'Artsakh. » Donc c'est... Puis après, il a dit que, de toute façon, c'était bon débarras, et que c'était tant mieux que l'Artsakh, il s'en soit débarrassé, etc. Donc, on va voir. Et puis, alors, en plus, il y a le problème avec l'Église, puisque le gouvernement tente de mettre la main sur l'Église, donc avait envoyé l'armée au Saint-Siège, sous prétexte d'une tentative de coup d'État, mais on n'a pas trouvé une arme dans le Saint-Siège, mais bon, c'est un coup d'État sans arme, c'est une nouvelle manière aussi. Et puis, il y a quand même 4 évêques et archevêques en prison, le patriarche qui n'a pas le droit de se déplacer, de quitter le pays comme si c'était un vulgaire malfrat, qui n'a pas pu se rendre à l'assemblée de l'Église qu'il avait convoquée lui-même à Vienne, qui n'a pas pu se rendre aux obsèques du patriarche géorgien Élie II, qui est mort il y a quelques semaines. C'est assez hallucinant et c'est très inquiétant parce que l'Arménie n'a pas eu d'État, le peuple arménien n'a pas eu d'État pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles, 8 siècles je crois. Et en fait, ce qui était le garant de la sauvegarde de la langue, de la culture, de l'identité, de la foi arménienne, c'était l'Église. Et là, quand l'État s'attaque à l'Église, on se dit, si jamais, par malheur, l'État venait à s'effondrer, il ne resterait plus rien.
Plus rien, oui. Alors parlons peut-être, parce que malheureusement, le temps nous presse un peu, mais de ce qui se passe donc maintenant au Liban, et en Terre Sainte peut-être, parce qu'il y a aussi des chrétiens sur le territoire israélien. Et là, pour le coup...
Et palestinien, parce que pour l'instant, à Dieu ne plaise, Israël n'occupe pas encore toute la région.
Mais alors là, c'est quand même beaucoup plus tendu, évidemment. Donc,
Évidemment, avec la guerre.
Comment s'est passé d'ailleurs le fait qu'on empêche le patriarche d'aller célébrer la messe? Est-ce que ça a été réparé ou est-ce que c'est maintenu
Non, alors c'était... Il faut être précis, sinon je vais me faire gronder en disant que je ne remets pas les choses dans le contexte. Mais en fait, il y a un texte israélien qui interdit tout rassemblement dans la ville de plus de 50 personnes pour tout le monde, donc y compris les juifs, les musulmans, etc., pour des raisons de sécurité, que si un obus venait à tomber, les ambulances ne peuvent pas accéder à la vieille ville. Donc ça, c'est pas spécialement contre les chrétiens. Mais il se trouve que le dimanche des Rameaux, le patriarche latin, donc Jean-Baptiste Pizzaballa, accompagné d'un autre prêtre, se rend au Saint-Sépulcre pour célébrer une messe privée. Ils étaient deux. Donc deux, je ne suis pas très bon en maths, mais c'est moins que 50. Et là, la police leur a interdit d'approcher. C'est ça qui a fait scandale. C'est pour ça que le patriarche a fait un communiqué extrêmement ferme. Et il se trouve que ça a mordu dans l'opinion publique internationale. Le président Macron est intervenu. Il se trouve qu'en plus, il avait la légitimité pour intervenir, puisque selon les accords de Constantinople de 1913, la France a un rôle de protection du Saint-Sépulcre. Donc, il avait toute légitimité pour intervenir. C'était un peu cocasse, si on se souvient des décrets gouvernementaux pendant le coronavirus qui interdisaient l'accès aux églises. Mais bon,
il ne
faut pas avoir trop de mémoire. Et donc, il a dit que c'était absolument scandaleux qu'on puisse empêcher l'accès aux lieux de culte, etc. Donc effectivement, c'était un abus qui n'était même pas légal. Mais il ne faut pas oublier que le ministre de la police en Israël, c'est Monsieur Ben-Gvir, qui est le chef du parti Forces Juives. C'est un des deux partis sionistes religieux, Kahanis, qui veulent que Israël soit un pays avec uniquement des juifs et avec des frontières très larges. Donc on peut imaginer qu'il a tenté de se saisir de l'occasion pour montrer aux chrétiens qu'ils n'avaient pas leur place à Jérusalem. Hein. C'est une hypothèse, ce n'est pas un fait. Mais voilà, mais suite à ça, même le premier ministre israélien a dédié à son ministre, a présenté ses excuses et a autorisé le patriarche à retourner au Saint-Sépulcre dans le respect des conditions énoncées précédemment. Donc la Semaine Sainte se déroule en petits effectifs, mais se déroule comme prévu.
Comme prévu. Bon, c'est déjà une bonne chose. Alors, ce qui ne se déroule pas comme prévu, c'est l'opération lancée par Donald Trump.
Tout fonctionne selon le plan.
Oui.
Que le chef d'état-major de l'armée de terre vient d'être limogé.
Limogé, tout comme...
Veut dire qu'ils n'ont pas envie de débarquer.
Ils se font débarquer.
Ils se font débarquer parce qu'ils ne veulent pas débarquer.
C'est ça.
J'imagine.
Alors, on pourra parler aussi. Mais il a aussi limogé. Alors, c'est une affaire intérieure, mais sa ministre de la Justice, Pam Bondi, et d'autres personnes devraient être appelées à dégager
sous
peu.
Oui, il paraît que la directrice du renseignement, Madame Gabar, est sur la sellette aussi.
Aussi. Alors, je ne sais pas comment vous jugez cette affaire, d'ailleurs, parce que Donald Trump a été extrêmement agressif envers les Européens, jugés déloyaux, car il refuse de participer à un conflit dont il n'avait pas été prévenu, ni même consulté, ni rien. Et donc, le fait qu'on ne rejoigne pas le train en marche, mais Donald Trump en colère. Il a expliqué donc à quel point les États-Unis se dévouaient pour le monde, alors qu'on aurait pu croire naïvement que c'était seulement pour Israël, mais bon... et sans la moindre reconnaissance, évidemment, des vassaux.
Que c'est surtout pour Israël, il le dit, là, notamment dans le discours qui a été mis en ligne par erreur, il fait des déclarations, il dit que c'est bien pour servir Israël et que normalement tout bon chrétien devrait...
je ne l'ai pas vu, ça, c'est intéressant.
Il y a un discours d'une heure, il était mis en ligne, puis retiré, c'était avec les pasteurs, il y avait un évêque catholique qui
avec
était là.
La pasteur qui a dit qu'il s'était relevé, qu'il avait été attaqué comme Jésus, qu'il s'était persécuté.
Il s'est relevé comme Jésus.
Et ressuscité.
Etc. Et il y en a un autre pasteur qui a fait une déclaration, non mais c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un problème grave. On nous dit la même civilisation, etc. Je trouve qu'il y a quand même des différences assez notables entre nous et les États-Unis, même si il y a aussi des points communs. Mais quand on voit l'autre pasteur qui dit que les Juifs ont été tués, massacrés par les Perses, et il ajoute les Perses, les Iraniens, donc dans l'Ancien Testament, et que donc maintenant il faut faire la même chose aux Iraniens en mémoire de ce qu'ils ont fait aux Juifs il y a je ne sais pas combien de siècles. on nage quand même en plein délire. Hein.
Ça, c'est quelque chose, je pense, qui échappe énormément à nos mentalités d'Européens. C'est le côté messianique aussi bien des Israéliens que des Américains. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte leur dimension, mais profondément, mais quasiment mystique, en fait, eh bien, on ne les comprend pas.
Jean-Yves Le Gallou, comment vous... Mystico-dingo, même, je dirais.
Mystico-dingo, c'est une nouvelle... Jean-Yves Le Gallou, comment est-ce que vous jugez ces attaques de Donald Trump, et notamment contre la France ? Moi, j'ai entendu des Français, d'ailleurs, et je dois avouer que même sur les ondes de Radio Courtoisie, et ça m'a quand même un peu froissé...
Ce qui prouve la liberté de parole.
Exactement, c'est sûr et certain. Mais d'entendre des gens critiquer la France d'être incapable de frapper, enfin de soutenir ses alliés américains alors qu'ils nous ont aidés ici et là, etc., et qu'on n'a jamais rien fait, c'est quand même oublier que la France a envoyé des gens se faire tuer en Afghanistan, en Irak pour la première guerre, au Kosovo, alors que la Serbie était une alliée de la France, en Libye.
En Libye, c'est plutôt la France qui était à l'initiative.
Oui, c'est pas faux, ouais. Mais néanmoins, voilà, c'est quand même phénoménal. Et là, nous reprocher à nous de ne pas nous associer à une guerre, encore une fois, pour laquelle nous n'avons rien su. Je trouve ça phénoménal. Et voilà. Donc, personnellement, ça m'a obligé à être d'accord avec Macron qui a renvoyé Donald Trump dans ses buts, et ça me froisse beaucoup. Jean-Yves Le Gallou.
Ben, alors, je pense que Donald Trump, il s'est fait lire sur le non-interventionnisme.
Comme George Bush avant lui.
Mais
alors, heureusement. Alors, parce que sinon, alors, je ne sais pas ce que ça serait.
L'explication que je comprends, c'est qu'il est non-interventionniste d'un point de vue général, avec deux exceptions. L'hémisphère américain,
oui,
qui est traditionnellement, depuis la doctrine Monroe,
du Groenland à la Terre de Feu. Voilà.
Alors, c'est la doctrine Donroe maintenant.
Oui, Donroe, absolument.
Pour Donald.
C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est la défense de l'Amérique auquel on associe Israël. Voilà. Israël étant en quelque sorte sous la même protection
des États-Unis,
que l'Amérique. Mmh. Donc ce qui donne effectivement une impression un peu bizarre, parce qu'on parle d'une logique non-interventionnisme et on voit des logiques interventionnistes, effectivement comme George Bush avant, oui.
Alors Jean-Yves Le Gallou, est-ce que comme moi vous donnez raison à Emmanuel Macron ? J'ai pas envie d'être seul.
Là, vous en demandez beaucoup. Bon, ceci étant, ce qui est sûr, c'est qu'on est sorti de la logique diplomatique classique.
Ah oui, là, c'est voilà. Pas qu'on puisse dire. Oui.
Et alors, c'est assez
c'est
amusant parce que il y a eu, c'est un petit coq à l'âne que je vais faire, il y a eu une interrogation de Monsieur Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, par Madame Salamé sur France 2, oui. Et Monsieur Lavrov a tenu une tenue et un langage diplomatique classique, ce qui a surpris, on a reproché à Madame Salamé, qui est pourtant pas spécialement pro-russe à ma connaissance, de l'avoir laissé dérouler son discours.
Ça, elle pouvait parler comme elle voulait, il enlevait l'oreillette, alors
qui s'inscrivait dans une logique diplomatique classique, avec évidemment de la langue de bois.
Oui, bismarckienne. Arthur de Vatrigan, qui est arrivé. Est-ce que vous donnez raison à Emmanuel Macron ?
Bah, toujours.
Bon.
Non, mais là-dessus, évidemment, quand on s'est insulté par une puissance étrangère, même si la puissance étrangère peut avoir
c'est
raison...
C'est son président, peut-être, plus que la puissance.
Le représentant d'une puissance étrangère, même si, parfois, elle peut avoir raison, bah évidemment, je défends le président, parce que mon linge sale, je lave en famille, et que je ferai tout pour le dégager. Non, d'une façon, il dégagera.
Ouais, là, c'est fait.
Pas. mais je ne supporte pas que, surtout, Donald Trump, quoi. C'est compliqué de donner des leçons depuis la France, parce qu'on n'a plus rien. Ouais. On n'a plus d'oseille, on pèse sur rien, les expériences de Macron au Liban et ailleurs sont révélées catastrophiques, donc on n'est pas en position de donner des leçons. Mais on n'est pas non plus obligé d'accueillir les leçons d'un espèce de beauf américain qui parle avec le même langage pour commander un saucisson ou pour traiter d'une guerre, de la même manière, et c'est pas parce que je regrette que Macron ait été élu deux fois président que je vais applaudir dès qu'un président étranger insulte mon président, parce que c'est quand même malgré tout mon président, voilà, c'est comme ça, c'est ainsi.
Ça, je l'apprends.
Mais dans ce cas-là, on assume de ne pas
être
démocrate.
C'est le président de la France. De là à dire que c'est le mien,
oui, vous êtes français.
Il y a des limites, quand même.
De mon pays, si vous voulez.
De votre pays.
Non, mais pas le mien.
Enfin, d'une autre.
Je ne vais pas m'approprier une présidence.
Exactement. Je cherche le cochon, là.
Et disons que mes penchants républicains et démocrates pourraient me dire que c'est jamais été mon président. Mais bon, bref. Non, je supporte pas ça, ça m'exaspère. D'autant que, encore une fois, ce qu'on voit aujourd'hui de cette guerre déclenchée par Israël et par les États-Unis, c'est que c'est pas dans notre intérêt aujourd'hui. Alors, encore une fois, si elle arrive à terme, rapidement que le régime est renversé, que le rêve américain de foutre des démocraties partout arrive enfin cette fois-ci, très bien. Mais j'y crois pas une seconde.
Non.
Donc ce que je vois, ça va juste, encore une fois, foutre le Moyen-Orient à feu et à sang, et que nous, on va payer les conséquences économiques, géographiques, géopolitique, pardon, peut-être immigrationniste aussi. Voilà, le problème, il est là. Alors, c'est que ce n'est pas dans nos intérêts. Et là, depuis le début, Macron est sur une ligne. Alors, pour une fois, le en même temps peut fonctionner un peu, quoi. C'est-à-dire, on est à la guerre, mais pas vraiment. On soutient les Américains, mais on ne le soutient pas vraiment. L'espèce d'entre-deux, mais bon, a priori, c'est peut-être aussi ça le rôle de la diplomatie. Moi, je ne comprends pas le principe d'envoyer un porte-avions, mais qui ne sert pas à grand-chose.
Mais pas
plus
vraiment
que...
l'envoyer, puisqu'il reste en Méditerranée, évidemment.
Mais ça veut dire qu'il ne veut pas non plus complètement rompre avec l'alliance, nos vieilles alliances, et pas non plus donner raison à l'Iran et ses proxys. Mais je vois quand même qu'on a eu comme conséquence une bande américaine sur le sol français qui a failli se faire péter. Donc même en étant, il y a la banque américaine, une banque. Oui. Alors c'était heureusement un terroriste un peu nul, une bombe qui a foiré, mais quand même. Donc même en restant en recul, on a quand même une tentative d'attentat chez nous. Donc même quand on veut pas, on a les conséquences. Donc je suis assez ennuyé.
Pour conclure, peut-être une conséquence positive. Là, on a vu que les États-Unis se retirent en Asie, au Japon, en Corée du Sud. Trump réclame les missiles qu'il a vendus à la Pologne.
Et la Pologne qui dit non aux États-Unis, c'est quand même là. C'est une
énorme.
Première. Je pense que depuis 1990, ça n'est jamais arrivé. Trump réussit sur toute la ligne. Le plan fonctionne comme prévu. Oui.
Et donc là, on a peut-être une occasion pour nous, Européens, Français, de rétablir, de reconstituer un maillage diplomatique avec l'Asie, avec l'Europe, qui pourrait nous servir. Alors, si vous pouvez juste me donner une réponse rapide, parce qu'il faut qu'on passe à notre sujet, à l'oncle, parce qu'il va nous rester 20 minutes pour en parler, ce serait dommage. Est-ce que ça vous semble convaincant?
Deux.
Ça, le fait que l'Europe et la France ont une carte à jouer? Oui, non.
Faut-il des moyens.
Mais on n'a pas d'Europe, on n'est pas d'accord.
Bon, donc je ça pas, en voilà. Suspens, on en reparlera la semaine prochaine, là, il faut qu'on avance.
Il y a quand même plusieurs pays qui commencent visiblement à en avoir assez, par exemple l'Italie, qui au début était plutôt très alignée sur les États-Unis. Je pense que le résultat du référendum, et notamment chez les classes jeunes de la population, a servi de signal d'alerte à la présidente du gouvernement italien, puisque tout de suite, elle a interdit l'usage des bases américaines, voire le survol, je ne sais plus exactement, mais il semble bien que ça soit une réaction au référendum perdu où les jeunes gens ont complètement basculé à voter non et l'affaire de la guerre au Proche-Orient n'y est pas pour rien. Donc je pense que ce qui est très intéressant, c'est de voir que je plaisantais sur le plan qui fonctionne comme prévu, mais en fait on voit que ce soit les États-Unis, qui est bien évidemment une puissance bien plus importante que la Russie, et la Russie, qui est peut-être la deuxième en armée pour l'instant, deuxième, troisième, c'est pour eux difficile d'imposer leur vue à des États
des gens
plus petits,
plus
faibles,
envie,
etc. Puisque je faisais exprès l'analogie, puisque c'est vrai que visiblement le plan russe en Ukraine n'a pas tout à fait fonctionné comme prévu au début.
La dénazification en 3 semaines, oui.
Et pour Monsieur Trump, ça ne fonctionne pas tout à fait comme prévu non plus en Iran. On le voit d'ailleurs avec le limogeage du chef des états-majors militaires. Généralement, quand on fait ça, c'est que ça va bien.
Oui.
Vous avez entendu le discours du pape à Monaco d'ailleurs? Première sortie, voyage papal en dehors de ce qui était planifié pour François, il va à Monaco, il a eu un discours très très offensif sur les guerres, je vous rappelle qu'il est aussi américain, vis-à-vis de Trump, mais ce qu'il avait dit, c'est qu'aujourd'hui, encore combien de calculs sont faits dans le monde pour tuer des innocents, combien de fausses raisons sont revendiquées pour les éliminer. Et puis ça, c'est qu'une petite partie.
Ouais.
C'est pas inintéressant.
Alors, on va passer, parce qu'il y en a un pour qui le plan pourrait se dérouler comme prévu. C'est Charles Alloncle. Donc, dans L'Incorrect, vous publiez, dans le numéro qui sort cette semaine...
Oui,
où il y a d'ailleurs un excellent reportage d'Adèle Rosner au Liban.
Eh bien, qu'on salue.
Exactement.
Un entretien donc avec le député UDR Charles Alloncle, qui est le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, qui s'achève donc le 9 avril, après les dernières auditions. Ensuite... Oui. Racontez-nous, ensuite il doit rédiger son rapport.
C'est ça que c'est. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'il ne peut rien se passer, pour plein de raisons. Le rapport, il va rédiger son rapport. Ensuite, il va soumettre ce rapport aux gens de la commission, donc les députés de la commission. Ils auront 3 jours pour le consulter dans une pièce fermée. Ils ne pourront pas prendre de photos, ils ne peuvent pas l'emporter, ils ne peuvent pas prendre. Voilà, ils le consultent, et ensuite, parce qu'il ne faut pas que ça sorte comme ça, et ensuite ils doivent voter. si le rapport est voté comme non publiable, tout ce qui a été fait depuis des mois doit disparaître. C'est-à-dire les comptes rendus, les vidéos, les déclarations, ça disparaît. Alors tout le monde dit oui, mais on peut sauvegarder, on peut. Très bien. Mais ça ne peut pas être utilisé. Ça ne pourra jamais être utilisé. Et ça relève du pénal. Si vous voulez. Si par exemple vous avez un éditeur ou un magazine, une presse, qui décide de publier le rapport, des extraits du rapport qu'il aura récupéré malencontreusement, ça peut aller au pénal. Voilà. Donc c'est faut faire. Quand vous voyez que depuis le début, c'est ce que nous raconte Alloncle dans cet entretien, depuis le début, tout est fait pour que cette commission n'ait pas lieu. Mais tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont passées, qui ne s'est jamais passé pour toutes les commissions depuis que l'histoire des commissions existe.
Même pour quand il y a eu la commission sur les syndicats.
Ah oui, mais depuis le début, quoi, vraiment. Ils ont inventé des règles en cours de route. Non, mais c'est fascinant.
C'est tellement commun.
Je vais vous raconter des petits exemples parce que honnêtement, on peut se dire, on a déjà tout entendu sur Charles Laloncle. Au départ, je voulais faire un entretien de 4 pages, j'ai vu un grand truc avec Marcel Gauchet. Bon, j'ai gardé les deux, sauf que le 4 pages s'est transformé en 14 pages. Parce que ce qu'il nous dit, je ne l'avais pas entendu ailleurs, et surtout, on a tout au même endroit. Et on comprend toute la logique. Et je vais vous dire, le sujet pour le grand public, le scandale, c'est le pluralisme. À la fin de cet entretien, je me dis, le pluralisme, pour parler en auvergnois, c'est bullshit. C'est presque un non-sujet comparé à la mafia, parce que c'est un système mafieux qui... existe au sein de cette entité qui s'appelle l'audiovisuel public. C'est fascinant, entre les menaces, les magouilles, les échanges de postes, on parle de 4 milliards par an,
oui.
Dont 3 milliards pour France Télévisions. Donc c'est honnêtement, c'est fascinant. Et donc je me dis, naïvement, comme tout a été fait pour que ce soit empêché, que cette commission n'ait pas lieu, et que pendant la commission, des choses ne se passent pas, il n'y a aucune raison que les gens, les députés, ne votent pas contre. Le but, c'est que ça ne soit pas publié. C'est ça l'objectif.
Mais est-ce que ce ne serait pas un scandale gigantesque?
Mais il y a des syndicats.
Il faut faire monter l'information. Les gens ne le savent pas. C'est important.
Il y a le précédent sur les syndicats. Il y a eu une commission d'enquête sur les syndicats il y a 7-8 ans, je pense. Elle a été jetée à la poubelle.
Ouais, mais là, vous pensez, parce que ça, l'audiovisuel public, ça a rythmé toute l'année 2025.
Ça continue parce que c'est pas fini, cette affaire. Mais sauf que si vous voulez réformer l'audiovisuel public, ça se passe par le politique, étant donné que l'audiovisuel public dépend du politique. Donc, seuls des politiques peuvent réformer. Et le principe de ce rapport, c'est de dire, voilà, j'ai des recommandations, voici ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait pas faire. Et c'est le meilleur moyen pour que ensuite soient votées des choses pour que l'audiovisuel public soit réformé. Si le rapport est enterré, pas un député, pas un groupe va le remettre à l'ordre du jour.
Jean-Yves Le Gall, vous pensez vraiment qu'on pourrait étouffer ce rapport, vous?
Oui, puisqu'on a étouffé le rapport sur les syndicats.
Oui, mais qu'il y a eu moins d'impact quand même.
Oui,
non
mais le rapport sur les syndicats était à mon avis aussi
grave. Il y a quelque chose de scandaleux.
Les syndicats, c'est du détournement d'argent public au service à la fois d'une idéologie et d'intérêts particuliers, et c'est aussi très mafieux, les syndicats. C'est ça, la réalité. Moi, j'ai un camarade qui a fait toute une carrière dans le syndicat, et faux. Il m'a dit, à l'époque où j'étais encore en politique, il m'a dit, mais vous, les politiques, vous êtes des plaisantins. Ce qui se passe dans les syndicats, c'est mille fois pire. Et c'est pour ça que le rapport sur les syndicats a été enterré. Et je pense qu'effectivement, il y a un risque que le rapport sur l'audiovisuel public disparaisse de la même manière.
D'accord. Alors, que vous raconte de si scandaleux ou exceptionnel, Charles Laloncle?
Déjà, beaucoup de mensonges.
Laloncle ne vous raconte pas beaucoup de mensonges, j'espère.
Beaucoup de mensonges qui circulent et qui ont été affirmés pendant une commission, je rappelle.
Ouais.
Tout le monde connaît l'affaire Arnaud, deux fois nommée, une prime pour des résultats magnifiques, des communiqués tous les ans pour dire que l'audiovisuel public performe. Bon, on a découvert, grâce à Charles Laloncle, qu'il y avait moins 80 millions d'euros de pertes entre 2017 et 2025. Alors nous, on est un peu malin, on s'est dit, on va fouiller un peu. Et en fait, le résultat, c'est pas moins 80 millions, c'est moins 256 millions. Parce qu'il faut savoir, France Télévisions, c'est un groupe. Vous avez la société mère, qui est une société anonyme. Et elle détient des filiales. Vous avez des filiales qui produisent des films de cinéma, qui distribuent des programmes, une autre qui fait une régie publicitaire, une autre qui loue des biens. Et certaines gagnent très bien leur vie. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période où on arrive à un déficit de moins 81 millions d'euros, ces filiales ont versé 174 millions d'euros à la maison. Vous faites l'addition, c'est pas moins 81 millions, c'est moins 256 millions. C'est un exemple, c'est un mensonge. Moi, le truc qui m'a le plus surpris, c'est 9000 salariés. Pourtant, vous avez des centaines de millions d'euros de France Télévisions qui sont qui servent à acheter des programmes en extérieur. Et on a 9000 salariés, à quoi ils servent si c'est pour dépenser presque un milliard en programmes extérieurs? Et ce qui est intéressant, c'est dans ces programmes extérieurs, comment ça marche. Vous avez notamment sur la fiction, normalement, c'est un marché public. Bon, là, c'est pas un marché public classique parce qu'on est sur de la création, donc c'est un peu différent. Mais Charles Lalonde demande au numéro 2 de France Télévisions, mais est-ce que je pourrais avoir les, je sais pas, les contrôlés de réunion, les rapports ou les contrats signés? Le secrétaire général de France Télévisions lui répond par écrit que ces documents n'existent pas. C'est quand même assez intéressant. Une semaine plus tard, il auditionne les directeurs des unités de production de France Télévisions. Il leur pose la question sans l'avoir dit qu'il avait échangé par écrit avec le numéro 2 de France TV. Et eux lui répondent, bah oui, ça existe. Ah, très bien, envoyez-les-moi. Donc, déjà, mensonge du premier, ça existe. Il reçoit un doc, je vous jure, c'est alors, trois pardon, colonnes.
Une parenthèse, Arthur de Vatrigan.
Oui.
Est-ce que quelqu'un qui ment en commission...
Non, c'était pas en commission, là, c'était par écrit. C'était par en échange. C'était pas en commission.
Et ça
en commission,
n'est pas considéré comme en commission.
Alors, il faut savoir que France Télévisions leur a payé une boîte de média training pour le principe et faire des réponses monologues qui durent 15 minutes avec plein de mots techniques en expliquant entre chaque phrase proustienne de 15 pages que c'est très compliqué et qu'ils ne pourront pas comprendre. Donc le principe, c'est de ne pas de répondre. Donc, mais une fois que bon, l'audition est passée, il dit bon, il y a ça, ça, il y a ça, donnez-moi le truc. Et c'est là où le type répond non, il n'y en a pas.
Mais bon, ça n'est pas considéré comme en commission.
Non. D'accord. C'est pas considéré comme en commission. Finalement, donc les directeurs d'unité de production ne savaient pas. Ils disent, bon, oui, ça existe. Heureusement. Ouais. Heureusement, quand vous vendez pour un milliard, vous avez deux, trois traces écrites. Mais les traces écrites, c'est rien. C'est trois colonnes. Oui, j'ai vendu tel truc, c'est hop, 100 000, 300 000, etc. Et là, quand on rentre dedans, c'est assez amusant. Un exemple. Il a auditionné Anne Holmes, qui est une directrice de la fiction chez France TV. Il lui a demandé, et il s'était renseigné un peu, et il lui demande, est-ce que c'est vrai que vous faites offrir des vacances par des producteurs à qui France Télévisions attribue des contrats. C'est elle qui décide. Mmh. Et c'est du conflit d'intérêts. Donc elle dit que non, puis finalement elle a dit que oui, donc là on lui dit, bah, y a un petit problème. Elle dit, non, rassurez-vous, quand c'est le cas, je ne prends pas les décisions, ce sont les N-1.
Ah bah ça va.
C'est-à-dire, qui peut penser que les N-1 sont de la liberté?
Non. Bon, voilà. Oui.
Autre exemple, Nathalie Darigrand, ancienne directrice de France 5. Elle a signé plusieurs millions de contrats en tant que directrice de France 5 avec la société Together Media, qui est la boîte de production qui notamment produit l'émission C'est Politique. En 2020, elle quitte France TV avec un accord et un petit chèque de 400 000 euros. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rejoint Together Media pour prendre la direction des émissions qu'elle avait elle-même attribuées. Voilà, ça c'est un exemple. Alors vous avez l'autre exemple de Takis Candidis, alors lui il a fait plusieurs de l'aller-retour. Il revenait, il repartait, puis à chaque fois les contrats bizarrement augmentaient. Mais il y a un autre exemple de conflit, l'exemple comme ça il y en a plein, je vous donne un autre. Là qui est moitié politique, moitié finance. Vous avez Arnaud Engacha, qui était un des maires adjoints de la mairie de Paris. Il est pour ce boulot, ce mandat, il avait un salaire de 60 000 euros. Et en même temps il était en contrat à temps plein pour France TV à hauteur de 100 000 euros. Avec un titre peu particulier, directeur des opérations spéciales. Donc forcément, vous voyez le
ça
truc.
Ça fait peur.
Bon. Ok, donc Charles Lalonde demande en audition à Mme Ernotte, mais il faisait quoi? Bah, il s'occupait du Téléthon. Sauf que bah, à l'oncle, comme il auditionne d'autres personnes, il dit bon d'accord, je note ça. Et au cours d'une autre audition, il demande aux différentes personnes concernées est-ce que Monsieur Engacha faisait de s'occuper du Téléthon? Non, il n'a jamais fait ces émissions-là. Voilà. Des choses comme ça, il y en a plein. Donc vous voyez un peu le niveau de système d'entre-soi, de services rendus et tout ça avec notre argent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte qu'il a eu plein de pression. Il a eu plein de pression. Alors, le mieux de la pression, c'est la veille de l'audition d'Ernotte. Vous avez eu, étonnamment, dans quelques heures concentrées, un communiqué de la Cour des comptes. Pierre Moscovici, qui est la Cour des comptes. Non, il n'est plus la Cour des comptes. S'il était à la Cour des comptes à l'époque, je ne sais plus. Bref, qui s'occupe, celui qui sortait les rapports, vous savez, notamment sur France TV. va dans Quotidien pour dire chat à l'oncle raconte n'importe quoi, et vous avez Madame Ernaut, la veille de son audition, dans un grand quotidien qui dit que Charles à l'oncle diffuse des fake news. Donc, je veux dire, la veille de l'audition de la grande patronne, tout d'un coup, vous avez un concentration de personnes qui envoient du tir croisé. Mais il y a eu aussi donc, les menaces. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Charles à l'oncle s'approchait des sociétés de production de privé, les menaces augmentaient. C'est des coups de fil, c'est des messages par des proches, c'est « il ne devrait pas faire ça ». C'est « oui, mais si tu penses à ton avenir, peut-être qu'on pourrait faire ça ». Voilà, ça, alors il n'a pas voulu me donner les noms, il n'a pas voulu nous dire les noms, évidemment, mais plus il s'approchait du privé, plus la menace intensifiait. Et si vous regardez hier l'audition de Xavier Niel et de Mathieu Pigasse, je peux vous révéler quelque chose, c'est que Xavier Niel, avant de rentrer dans la commission, a pris deux cachetons. Ça peut expliquer, soit il voulait descendre la pression, soit il voulait l'augmenter. Mais en tout cas, il y a un souci, ça se voyait dans le caractère.
Jean-Yves Leguelou, qu'est-ce que vous avez pensé de cette audition de Xavier Niel ?
Non, c'est-à-dire que l'agressivité des représentants privés auditionnés par une commission parlementaire est absolument étonnante. Pourquoi ? Parce que la logique politique, c'est que l'homme politique, il a peur du média. Il se soumet au média parce que le média... c'est celui qui peut faire ou défaire sa carrière. Et là, on a vu le média, le représentant du média, et Niel, c'est pas seulement les sociétés privées de France Télévisions qui travaillent pour le service public, c'est aussi un empire, Le Monde, toute une série de médias qu'il contrôle, Le Parisien, dont sa femme est la directrice. Donc c'est une surpuissance médiatique qui est mise en cause par un homme politique, c'est Le Monde à l'envers. C'est le facteur qui mord le chien. Et évidemment, le chien, il est très surpris et il est très fâché.
Et on lui a quand même dit à chaque fois la veille de ces auditions importantes, on lui disait, ces questions-là, faut pas que tu les poses. Ça va te mettre en difficulté. Puis un jour, peut-être qu'on te rendra l'appareil. Ou bien on va user de moyens pour te nuire. On en est là, quoi. C'est quand même fascinant. Alors après, il y a autre chose qui est assez amusant.
Il est d'un courage extraordinaire.
C'est un énorme bosseur. C'est un jeune député. Hein. Il a peu d'expérience. Il est en commission. Ils sont pas nombreux. Il est assez esselé. Et là, ça fait quand même plusieurs mois d'un enjeu qui devient un enjeu national, parce que la commission est peut-être une des commissions les plus suivies.
Oui.
Donc ça prouve qu'il y a un intérêt général, et ça prouve que il faut peut-être faire quelque chose, et que cette commission doit aboutir. S'il y a un problème, et que si c'est suivi, et c'est qu'on découvre qu'il y a des trucs qui ne vont pas, le but, avant de dire on va rayer d'une carte l'audiovisuel public, c'est comment le réformer, comment faire quelque chose. Parce que si c'est pour avoir des jeux débiles comme sur TF1, alors vous allez me dire, Nagui fait des jeux aussi débiles, mais voilà. Non, l'audiovisuel public a une vraie utilité. Il y a des choses que le privé ne ferait pas pour des raisons d'audience, pour des raisons de coût que le service public fait. Je vous donne un exemple. Il y a eu un docu-fiction très beau sur, vous savez, la jeune femme qui a permis que les terroristes du Bataclan soient logés à Saint-Denis. Ouais, et vous savez, cette jeune femme-là, qui je crois qui est la première personne
qui a parlé
et a bénéficié d'une protection de témoin comme il existe aux États-Unis. Bon, ils l'ont fait venir, évidemment, il fallait qu'ils la protègent, et donc ils ont fait une sorte de docu-fiction, et c'était un très très beau docu-fiction. Je ne suis pas sûr que le privé l'aurait fait. Mais alors, quand on fait tout ça, on se met aussi dans les papiers et tout, et alors je vous invite à lire des pépites, c'est le rapport de l'ARCOM. Et je vous promets, c'est fascinant, quoi. Alors déjà, c'est le rapport de l'ARCOM.
Pas l'ARCOM ici, s'il vous plaît.
Non, mais si, le rapport de l'ARCOM sur... il publie un rapport sur l'exécution du cahier des charges. Bon, j'ai regardé celui de France Télévisions. Bon, il y a des trucs assez intéressants, c'est qu'ils disent l'ARCOM a vraiment... France Télévisions a respecté ce cahier des charges, notamment sur les personnes racisées, notamment sur les personnes non blanches qui ne sont pas... Il y a tout.
Mais le plus drôle,
c'est pas là.
Notamment dans les fictions, là.
Il nous reste deux minutes.
Bah, je vous dis, le plus drôle, c'est pas là, c'est sur le temps de parole. Alors, le régulateur égrène les manquements du groupe public au cours de chacun des trimestres 2024. Trimestre 2024, l'année d'une élection. Hein. Au titre du premier trimestre, France 3 et France 2 se font taper sur les doigts. Bon, très bien, il y a 2-3 trucs. Mais, deuxième trimestre, là c'est intéressant, l'autorité, donc l'ARCOM, choisit de ne pas faire son travail en raison de, je cite, « l'importance du volume horaire consacré par la majorité des chaînes à la couverture des élections européennes et législatives ». Comme on parle de trop de politique, et que c'est trop dur à compter, on va pas compter.
C'est magnifique.
C'est pas une blague, c'est vrai. Je vous promets, c'est écrit noir sur blanc. Et ensuite, le trimestre passe, là, ils reviennent à des trucs classiques. C'est-à-dire que vous avez l'ARCOM qui préfère pas compter le temps de parole pendant l'élection. En disant, c'est trop compliqué.
Ah ouais, sachant que c'est nous quand même fascinant.
Et ça, c'est dans leur rapport.
Pour qu'on tienne nos propres horaires et nos propres invitations pour avoir un respect de la pluralité, c'est très
rapport.
Pénible.
Non, il y a trop de temps.
Jean-Yves Le Gallou, pour conclure en 30 secondes sur cette affaire à l'oncle, la commission de l'audiovisuel, qu'est-ce que vous pensez de l'importance qu'elle peut avoir et si elle est ou non publiée d'ailleurs, si elle l'est et si elle ne l'est pas?
Ah, si elle est publiée, elle devrait déboucher sur des poursuites pénales, d'après ce qui a été dit.
Et il y a plein d'articles 40 qui vont être déclenchés à la suite de ça.
Il y a plein d'articles 40, donc on verra. Je pense que c'est le parquet national financier qui doit être, on verra le zèle éventuel du parquet national financier. Mmh.
Bon, et s'il ne l'est pas?
S'il ne l'est pas, j'espère qu'il y aura des moyens de contournement d'y avoir quand même accès. Voilà, je ne sais pas lesquels, mais...
En tout cas, ce serait un scandale et je pense qu'il faudrait vraiment que les
responsables... Il y a une élection 2027, hein.
C'est ça, oui. Bon, et ben écoutez, merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou, merci Arthur de Vatrigan. Arthur de Vatrigan, vous restez.
Avec joie.
On peut acheter le numéro de l'Incorrect qui publie ce grand entretien dès cette semaine dans tous les kiosques et on peut le commander donc sur le site de l'Incorrect.
Oui.
On tape l'incorrect dans un moteur de recherche ou sinon on va sur l'incorrect.org sans mettre d'apostrophe entre le L et le I et on tombe sur votre site sans problème. On revient dans un instant avec Michel Faux.